On va avoir un mode de restitution, je pense, différent de ce matin. C'est-à-dire, ce matin, on a eu un exposé, puis après une discussion, puis après le grand témoin. Là, ça ne va pas être tout à fait la même chose. Donc, ce que les membres de l'atelier... Alors, je rappelle le thème de l'atelier. La question qui était posée aux membres de l'atelier, c'était... existe-t-il une forme urbaine et une forme d'organisation du territoire optimale, amicale, si je puis dire, avec la question de l'économie d'énergie et l'économie en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc la question, c'était véritablement, au fond, entrer dans le vif du sujet autour de cette idée densité, compacité, forme urbaine, etc. Et derrière, évidemment, il y a la question des capacités d'action des acteurs territoriaux. Quelles capacités d'action des acteurs territoriaux pour produire de la ville dense et compacte, si tant est que la ville dense et compacte soit la bonne réponse à la question de l'économie et de l'efficacité énergétique des territoires. Donc, au fond, nous avons aujourd'hui, cet après-midi, deux questions à traiter. Existe-t-il ou pas une bonne forme, one best way, d'organisation du territoire en termes d'efficacité énergétique? Première question. Et deuxième question, quelle capacité des collectivités territoriales, des acteurs territoriaux, à produire ce one best way? Alors, Xavier Desjardins, que je remercie, et les auditeurs de l'atelier ont concocté un programme complexe, baroque, rock'n'roll.
Il fallait bien tout ça. Oui.
Pour tenter, alors je ne veux pas déflorer le sujet, mais non pas de répondre à la question, vous n'allez pas, évidemment... Je pense que vous ne répondrez pas à la question, mais disons de poser le problème dans toutes ses facettes. Voilà. La règle du jeu est que nous avons un grand témoin et que je remercie beaucoup, qui est Vincent Renard, qui est à ma droite. Voilà. Vincent Renard, dont je ne citerai pas les états de service, mais qui est médaillé, si j'ose dire, sous toutes les coutures.
Je vous dirai tout.
Voilà.
Je dirai tout.
Donc, Vincent Renard, qui est membre du conseil scientifique de l'IEDAT et qui est, franchement, à mon avis, le spécialiste français du rapport entre foncier, économie et action publique. Dont les éclairages, me semble-t-il, seront extrêmement pertinents et je remercie Xavier Desjardins d'avoir eu l'idée de l'inviter. Moi, personnellement, je n'aurais pas osé parce que j'ai peur toujours de trop le solliciter, de l'avoir fait venir. Le problème, c'est il y a juste un problème, c'est qu'il part à 16h15. Donc, il va falloir qu'on organise notre affaire de manière à laisser la parole aussi à Vincent Renard. Et c'est là où je laisse la parole à Xavier pour expliquer comment il va gérer ce problème.
Oui, merci Philippe. Donc, effectivement, j'ai eu l'honneur et c'était agréable d'animer cet atelier sur forme urbaine, aménagement et questions énergétiques. Et effectivement, on s'est vite trouvé face à quelques petits problèmes, on pourrait dire ça comme ça. Au début, on était dans un monde assez simple. On se disait que c'était finalement une ville un peu plus compacte, avec moins d'étalement urbain, un peu plus d'investissement dans les transports collectifs, ça fera moins de voitures, une bonne gouvernance à l'échelle des agglomérations. Voilà, on avait quelques ingrédients assez simples qui nous permettaient finalement de répondre à cet enjeu de la transformation de la ville. Alors en fait, dans le cadre des deux jours de cet atelier, on a moins finalement... ressasser ces recettes qui sont assez connues, hein, de l'aménagement vertueux pour être économe en sol et aussi en énergie, que poser un certain nombre de questions finalement face à cette en fait deux types de questions. La première question, c'était: mais est-ce que véritablement c'est quoi cette mode de l'éco-urbanisme, les éco-quartiers. On a eu en fait un peu une phase de déconstruction, je crois qu'on pourrait dire ça comme ça, la déconstruction d'une mode. On s'est attelé à ça pendant deux jours avec différents exposés. On a un peu déconstruit qu'est-ce que c'était que cet éco-quartier, cet éco-urbanisme, pour se demander si finalement on ne mettait pas des mots nouveaux sur des choses qui étaient finalement assez anciennes et qu'on changeait les mots, mais que finalement les méthodes de fabrication de la ville finalement demeuraient assez constantes. Donc on a fait un peu ce travail de déconstruction comme ça des concepts à la mode. Et puis on a également aussi pensé un certain nombre évidemment quand même de pistes de solutions. Mais en tout cas, je ne pense pas que l'atelier, enfin, sauf si les auditeurs sont pas d'accord, mais je ne pense pas, et d'ailleurs on n'en avait pas l'intention, qu'on soit arrivé à véritablement un corpus théorique, voilà, la ville et l'énergie, tout ce qu'il faut savoir en 12 points. Non, on n'est pas arrivé à cette question-là. Peut-être c'était impossible à faire en deux jours, et peut-être c'était pas possible du tout, parce qu'on verra qu'en fait, à la fin de la question, finalement, au bout du bout, on a répondu à ta question, on t'en propose une autre, Philippe, et ça tu verras, mais ce sera pour 17h30, 18h. Voilà. Donc, voilà, soyez attentifs, vous aurez l'autre question. Avec Frédéric, je crois, il la posera. Et donc, voilà. Donc, en fait, pour restituer un peu cet exposé, on va faire en deux temps, en fait, puisque, voilà, on aura cette pause à peu près vers 16h. Dans un premier temps, donc, je vais laisser parler François Bregnac, puis Vincent Renard, qui vont finalement exposer... Enfin, chacun leur manière, donc François Bregnac sur les modèles urbains retravaillés par la question énergétique, ce sera son exposé, enrichi de son expérience lyonnaise. Puis ensuite, donc Vincent Renard interviendra sur la question des déterminants économiques de la fabrique de la ville, on pourrait dire, face aux impératifs de la vie durable et finalement les antagonismes puissants qui peuvent exister entre ces deux mécaniques. Donc voilà, ça ce sera notre première séquence. Et puis on en débattra, il y aura une petite pause, et enfin en deuxième partie d'après-midi on aura donc d'autres interventions sur quelques pistes de solutions pour la fabrique d'une ville plus amicale avec les enjeux énergétiques, avec des exposés sur le rôle des collectivités locales avec Frédéric qui sera la principale oratrice, et puis Alain qui interviendra sur la question de est-ce que le monde industriel, finalement, on veut construire la ville durable, mais est-ce que le monde de l'industrie, de l'aménagement est prêt pour ce tournant, voilà, avec une question, je veux dire, de comment fait-on politiquement, économiquement, industriellement pour répondre à cette question, mais ça, ce sera notre deuxième partie d'après-midi.
Et Thierry ?
Et Thierry Archambault est absent, mais m'a donné quelques éléments, parce que lui voulait intervenir sur la mutation de l'industrie automobile, rend-elle nécessaire, finalement, tous les questionnements qu'on se pose sur la gestion des mobilités. Donc c'était un autre exposé, j'aurais dû l'excuser. Il ne peut pas venir aujourd'hui parce qu'il est retenu par d'autres, je ne sais quoi, un salon de l'automobile ou quoi.
Il fabrique une voiture.
Et il fabrique une voiture sans pétrole et tout, donc ça lui prend pas mal de temps cet après-midi. Donc voilà, on peut bien l'excuser pour cet après-midi.
Son coffre.
Voilà. Bah, écoutez, donc je vais passer la parole à François Bregnac.
Merci. Donc c'est un point de vue, c'est une mise de fond pour le débat, c'est un point de vue d'architecte urbaniste, donc comme je suis d'une agence urbaniste, on est un peu sur le terrain. Et ce que je voulais faire, c'était effectivement réinterroger les deux formes qu'on vient d'évoquer. La forme polycentrique, hein, la multipolarité, quoi.
Avec la lumière, ça vous pose pas de problème.
Ouais, mais c'est dommage parce qu'il y a des photos, donc elles seront nettement moins bonnes si on allume, on n'arrive pas à la régler. Non, mais ça vous gêne.
On va
De toute façon, pour les notes, il y a Lieda, c'est-à-dire Gisèle.
Merci.
Voilà.
Je veux une lampe.
Donc, la forme un peu polycentrique, la ville réseau, je crois, qui est à la grande échelle de l'aménagement du territoire, à la grande échelle. Elle est là, elle est dans nos têtes. On verra que l'histoire, elle la raconte quand même depuis un certain nombre d'années. Donc, elle est réinterrogée, cette forme, si on considère le défi énergétique. Deuxièmement, les écoquartiers, ça a été assez emblématique comme innovation, comme expérience partout en Europe, donc critique éclairée, leçon positive et leçon négative, tout ça pour déboucher sur la deuxième forme un peu qui est dans nos têtes, qui est celle de la ville compacte. Alors, ville compacte, densité et espace public, c'est ça qui fait quand même la forme de la ville. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Et au fond, on verra qu'aller loger en particulier la question énergétique, c'est pas si simple. Alors, et puis il y aura des détours un peu historiques, parce que moi je m'intéresse un peu au mouvement des idées, et je pense qu'elles reviennent comme ça depuis une centaine d'années. L'histoire de l'urbanisme raconte des choses assez fortes qui reviennent comme ça dans les esprits. Alors, la première question, au fond, c'est ça. La ville, quoi, la ville faubourg, la ville sur elle-même, et puis aujourd'hui, bon, cette image-là qui montre l'étalement urbain, c'est quand même le périurbain, c'est la moitié, c'est un logement sur deux en France qui est construit ici, c'est les trois fois plus de pollution, c'est là qu'elle se fait, bon, c'est de la maison individuelle, hein, et c'est un espace impensé quand même, et qui provient, alors voici un peu l'évolution de la population depuis 1954, vous voyez cette période à gauche, l'exode rural, les concentrations dans les centres urbains, puis les années 60-80, périurbanisation de la première couronne, puis les années 80-2000, c'est la périurbanisation généralisée, et puis depuis ces 10 dernières années, c'est carrément un phénomène qui va encore plus loin et qui gagne le rural. Donc
c'est Lyon, ça, hein?
Oui, c'est l'agglomération lyonnaise, donc... À l'AFNO, à la Fédération des agences, on avait fait ce constat, c'est-à-dire depuis dans les Trente Glorieuses, les agglomérations ont grandi en taille de 2 à 3 fois. Donc on est sur une urbanisation jeune qui recueille quand même la moitié de la population. Voilà, c'est ça. Alors, la question de... Alors, quelle figure ? La question du réseau, donc à l'agence de Lyon, mais aussi ailleurs, hein, Mangin pour sa part, on voit... ont travaillé sur cette évolution de la figure polycentrique, alors soit complètement centrée, soit déconcentrée, soit décentralisée, bref, on voit que les questions d'organisation du territoire et de la gouvernance, au fond, elles tournent autour de ces questions-là, et qu'on est moins, voire plus du tout, sur l'idée ville rurale, ville-campagne, ni centre-périphérie, et que l'idée plus globale de l'aménagement qui se ferait sur des pôles et qui respecterait globalement l'environnement, c'est quand même autour de cette idée-là qu'on est un peu tous. Alors, les travaux pratiques, on le fait, mais d'autres le font, par exemple, sur l'agglomération lyonnaise, on est le maître de Muscotte, on a fini. C'est cette idée-là, quoi, de la multipolarité et des réseaux. Bon, je ne m'étends pas beaucoup, mais juste pour dire qu'un des intérêts, c'est d'avoir commencé par la périphérie, de ne pas s'occuper de Lyon et de Villeurbanne dans un premier temps, et de commencer par se dire les communes périphériques, de première ou de deuxième couronne, sont des pôles. Et à partir de là, il y a des identités, et on donne cette vision un peu multipolaire du territoire qu'on accroche naturellement à des réseaux. Hein, puisque les réseaux, le premier d'entre eux, c'est bien sûr le réseau ferroviaire. Alors là, le train, et chaque ville le connaît, rentre dans la famille des transports en commun. Il ne fait plus que du ville à ville. Il dessert le périurbain et c'est l'armature même sur lequel, et le long des couloirs, on va se focaliser a priori l'urbanisation. Voilà, donc c'est cette idée forte qui apparaît. Là, il y a une carte qui a sauté. Bon. Et les réseaux verts ou les réseaux bleus, c'est aussi les réseaux de nature qui irriguent et qui organisent la métropole. En parallèle à cette approche territoriale, il y a la question de la gouvernance, donc qui monte en puissance formidablement. Pour ce qui est de la métropole lyonnaise, voilà donc, typiquement une expérimentation hein, des maires et des vice-présidents donc du Grand Lyon, de Saint-Étienne et de la Porte de l'Isère, qui disent on ne va pas attendre la loi, la réforme territoriale, on va expérimenter une grande agglomération. Et nos trois pôles, nos trois histoires aussi, hein, et même antagonistes, contradictoires, hein, je ne fais pas le schéma Lyon et Saint-Étienne, les cultures, il y a malgré tout un fond commun, il y a des intérêts communs à imaginer donc des déplacements cohérents, des événementiels communs, des schémas universitaires mis en commun, etc. Voilà. Donc il y a cette initiative qui est latente depuis longtemps, mais qui s'organise. Donc cette idée de réseau, tant sur le plan territorial que de gouvernance, s'affine. Alors d'où vient-elle? Juste cette photo, il y a 10 ans déjà, hein, polycentrique surveillée de la France, de la Dattar, bon, qui avait évacué quelques scénarios, mais qui déjà affichait cette idée de polycentrisme. Un peu plus avant, il y a 40 ans, L'Oréal, quand il s'agissait de contrebalancer Paris avec les métropoles d'équilibre, par exemple, toujours sur l'exemple lyonnais, Lyon, Saint-Étienne, métropole, avait déjà cette idée de polarisation et puis de préservation de l'Interland. Et puis encore plus loin, on prend la charte d'Athènes, dans les années 40-47, Le Corbusier imaginait déjà des villes radioconcentriques qui seraient le moteur du territoire, des couloirs qui seraient les villes industrielles et au cœur la préservation de l'agriculture. Et ce schéma-là était triangulé sur toute la France. Voilà donc la figure du réseau. Est-ce qu'aujourd'hui, bon, elle semble quand même très enracinée dans notre culture, est-ce qu'elle peut être remise en question? À mon avis, elle peut l'être peut-être, si on pense au numérique. Elle va s'échapper de la géographie des choses et peut peut-être concevoir une vision moins statique de la géographie. Et le climatique, je ne sais pas. Mais en tout cas, alors il y a pas mal de politiques déjà qui vont dans ce sens. Mais voilà, la première figure, quand même assez enracinée, va-t-elle bouger? Alors, France 2040, Philippe, vous allez avec des systèmes... aux systèmes territoriaux,
on va résoudre ça.
Re-questionner ou résoudre ça. Le deuxième aspect, avant d'aborder la forme de la ville compacte, donc qui est à l'échelle de la ville constituée, deux, trois mots sur les écoquartiers qui, quand même, ont été très emblématiques. Je vais surtout évoquer celui-là, Hammarby, en Suède, là que j'ai visité longuement, qui est, bon, c'est 25 000 habitants, 11 000 emplois. Tout ce que vous pouvez imaginer de déplacements doux à 80%, la nature partout, les déchets recyclés, qui est l'exemple peut-être le plus emblématique qu'on imagine comme conception de nouveaux quartiers. Alors, quelques flashs comme ça sur ce qui est intéressant, à mon avis, d'avoir en tête. L'idée de l'équilibre bâti-non bâti. Cette idée forte, valable aussi à la très grande échelle, entre la ville construite et les espaces ruraux, je pense qu'on peut la retrouver ici, avec cette idée de pondération de l'espace, bâti, non bâti. L'idée de la diversité des formes, aussi je pense que c'est un élément intéressant, même si habiter dans ces écoquartiers n'est pas si simple que ça pour tous les ménages, ça c'est une des vraies critiques qu'on peut leur faire, mais l'idée de mélanger le collectif, le semi-collectif, etc., et d'avoir une diversité architecturale, c'est une leçon forte. La présence de la nature, là pareil. Alors, très fortement, on voit que les rues, à la limite, c'est même plus des rues, c'est des rues-jardins, ce sont des allées, et on rentre dans une osmose assez forte de ces quartiers, jusqu'au point où les services urbains, l'eau en particulier, au lieu d'être cachés, d'être dessous, elle participe à l'aménagement. Et vous savez qu'il y a aujourd'hui de grandes innovations sur la gestion des eaux pluviales. Donc, elle circule dans les cours, elle participe à l'aménagement. Elle se détechnicise, au fond, l'eau. Et je pense que c'est une des grandes questions de sortir l'eau de ces tuyaux et de la faire ressurgir sur l'espace public. Nouvelle façon d'habiter, ça on connaît, c'est surtout BZ qui a apporté ces éléments-là. Et un aspect, à mon avis, très intéressant sur la question du fonctionnement urbain. Alors, c'est peut-être le quartier Vauban qui est le plus explicite, l'idée d'avoir une conception d'ensemble, où on met les parkings à la périphérie du quartier, il y a un axe transversal pour les transports en commun, des zones de rencontre, des vélos, des piétons partout. C'est un point de vue qui je pense, qui peut être un peu généralisé à plus grande échelle. Mais tout ça, ça fait songer quand même à la cité-jardin. Je ne rentre pas dans l'histoire des cités-jardins, que ce soit la Garden City anglaise ou les cités françaises du début du XXe. Bon, cette idée de l'osmose de la ville et de la nature, c'est un archétype, je pense, extrêmement fort de pouvoir réaliser cette osmose-là. Il y avait souvent dans ces, et on retrouve dans les écoquartiers, l'idée de l'autonomie. Et ça, c'est peut-être un des aspects, à mon avis, assez critiques. c'est de considérer que si on isole trop, ou si on rend trop autonome ces quartiers, on a des problèmes. On a des problèmes. Je crois que l'idée de la continuité dans la ville, elle est assez fondamentale. Deux exemples assez intéressants aussi des années 30, toujours à Lyon, Tony Garnier, la Cité Jardin, qui elle est. Alors c'est dans la ville et à une échelle assez dense, mais et pour une population, pour toutes les populations, et un peu un extrait de la cité industrielle. C'est un exemple, à mon avis, très très intégré dont on s'inspire encore. Et puis cette photo qui est un peu provocante, mais pour dire, dans les années 60, au moment des quartiers, c'était, il y avait aussi cette idée pionnière de la reconstruction des quartiers nouveaux, etc. Air, soleil, verdure, c'était quand même bien ça qui sous-tendait. Et puis aujourd'hui, on les démolit, ou en tout cas, il faut les recycler. Alors, les écoquartiers, à mon avis, on peut leur adresser cette critique-là. Il y a un engouement pour l'écologie et tout, mais s'ils sont trop à l'extérieur et s'ils sont trop univoques, c'est-à-dire que conçus sur l'idée de l'environnement et pas sur les autres considérations, alors ils peuvent s'exposer à ça. Donc je pense que c'est peut-être la leçon, à mon avis, la plus intéressante, c'est que ces nouveaux quartiers, éco ou pas, ils doivent être intégrés dans la ville, etc. En tout cas, les écoquartiers aujourd'hui, il y a très peu d'exemples d'écoquartiers en plein centre. Alors, perspective. Premièrement, le plan climat du Grand Lyon, alors je ne vais pas faire long, mais il est déjà intégré dans notre SCOT. Et c'est vrai qu'il ne dit pas grand-chose, et j'étais très sensible à ce qui s'est dit ce matin, que dans le fond, on peut pas, c'est pas au titre de ça qu'on peut raisonner, parce qu'on le retrouve partout. C'est-à-dire qu'il y a toutes les politiques qui intègrent ces éléments de climat. Alors, la forme compacte, la ville compacte, c'est quand même la forme qu'il faudrait interroger. C'est donc la question des densités et les questions de l'espace public. Et je pense que c'est l'articulation de ces deux choses. Et où est-ce qu'on en est? Le grand débat sur les densités, il est réapparu au moment où on a dit on freine l'étalement urbain, la ville compacte, donc il faut faire évoluer les formes. Alors, la tour, elle a ressurgi. On a même dit que la tour, ça pourrait compenser l'étalement urbain. Une connerie invraisemblable. C'est-à-dire, quand on est dans un urbanisme de prospect, la tour, la défense, c'est moins dense que la Courneuve, c'est moins dense que les quartiers haussmanniens, je veux dire. Donc, c'est une réponse fausse. Elle est juste dans les centres d'affaires, mais je ne pense pas qu'elle le soit. Et puis, c'est une vieille histoire. Je rappelais les tours de San Gimignano au XIIe siècle. Il y a 1000 ans d'archétype derrière ça. Alors,
c'est pas les tours habitées San Gimignano.
Non, c'est les tours des seigneurs. Mais malgré toutes les. Alors par contre, il y a des gesticulations architecturales incroyables sur ça. Il y a des écotours. Enfin, on a eu droit à tous les discours, je ne rentre pas dedans.
Les Dubaï qui s'effondre.
Voilà, et puis Dubaï qui s'effondre. Donc. Alors c'est Paris qui a ramené cette question, avec Londres, 30 ans après la tour Montparnasse, on avait mis quand même le couvercle sur Paris, donc le plafond des hauteurs a été percé. Alors, autant sur les grands centres d'affaires, c'est une question à mon avis juste, autant sur les tissus urbains, c'est une question qui est très différente, et on a vu le débat parisien. Alors, il y a quand même la question de la densité, elle est intéressante. À Milan, par exemple, sur ce projet, il y a l'idée de dire je concentre mon centre d'affaires en quelques tours, donc voilà une forme nouvelle, puis je libère le sol pour avoir de la nature et de l'espace ouvert. J'ai mis cet exemple de El Moutial, là, de la tour de Sony, parce qu'elle, je trouve, c'est un lieu assez exceptionnel. C'est un micro-espace public, mais où il y a une intensité urbaine extraordinaire. On est dans un lieu de très très forte densité, et on est on est dans un lieu qui résume, au fond, pas mal de choses, quoi, la petitesse, la monumentalité et l'espace public. Peut-être l'exemple le plus significatif sur les tours, c'est Vancouver. Alors Vancouver, depuis les années 60, ils sont sur ce projet d'un urbanisme, au fond, de très très forte densité. qui est très subtile, parce que c'est à la fois des tours très fines, très hautes, donc qui donnent des conditions à tous de logement, et puis sur rez-de-chaussée, on voit, il y a une galette comme ça, de 2-3 étages, qui donne l'échelle de la rue. Une dalle, et là, on a une sorte de... On a à la fois la rue, les avantages de démultiplier les vues. Par exemple, à mon avis, le seul où la tour est une réponse à la densité, mais sur un vrai projet d'urbanisme qui a déjà 40 ans. Alors, deuxième élément où la densité se pose, c'est dans la partie de la ville la plus constituée. Alors, il s'agit de quitter l'urbanisme haussmannien, hein, c'est-à-dire la couronne bâtie et puis au milieu des cours qui servent à rien. Alors, Christian de Porzamparc, dès les hautes formes à Paris, avait trouvé cette idée de l'îlot ouvert. Donc là, le jeu, ça consiste à être le plus dense possible, malgré tout d'être le plus poreux, de faire varier les hauteurs, d'introduire quand même des espaces très très paysagers. Et comme l'exemple tout à l'heure, de résumer la densité urbaine très très forte. Alors ça, c'est l'exemple qu'on a en tête quand on dit la ville compacte. À Lyon, sur Lyon-Confluence, dans la première phase, projet sur lequel je travaille, on est parti avec des densités très très fortes, de 3 à 45. C'est à peu près cet ordre. 3 à 45. C'est un tollé. Aujourd'hui, dans la deuxième phase qu'on amorce avec Herzog et Deleuron, on part à 2,4, 2,6. Donc on a dit, la ville compacte, alors on parlait d'acceptabilité ou d'adhésion tout à l'heure, je veux dire, là, il faut faire très très attention, c'est-à-dire que ce n'est pas si facile que ça de faire la ville compacte. D'autres exemples aussi de très forte densité. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans ce mouvement-là, c'est à la fois l'architecture et puis l'invention sur la nature ou sur le jardin, alors qui naturellement est beaucoup plus artificialisé. Bon, et puis, il y a des exagérations aussi incroyables par rapport à cette question des densités. Tout ça pour dire que densité, ça a vraiment provoqué de l'innovation architecturale un peu dans tous les sens. Et que c'est une question qui se conjugue avec nature, densité nature. Il faut s'y retrouver. Hein. C'est ce jeu subtil. Et enfin, bon, je ne développe pas sur le périurbain. C'est quand même là qu'est la grande question. C'est la moitié de l'espace construit, c'est l'espace périurbain. Et c'est de la maison individuelle. Alors, c'est la densité. L'espace public, lui, on s'est arrêté à des politiques d'embellissement qui étaient sur les places, essentiellement, je crois, ces 10 ou ces 15 dernières années. Aujourd'hui, on sent un triple mouvement. L'homme mobile, ce qu'on dit, c'est-à-dire l'idée d'aller dans tous les sens, à vélo, de marcher, etc., d'avoir une liberté de mobilité. L'art de la rue, l'appropriation des gens sur l'espace, en faire des manifestations culturelles, artistiques. Et puis, la nature dans la ville, le vivant. Passe. Dans les conditions de la mobilité, juste cette carte pour dire que le numérique peut jouer un rôle très très important pour favoriser le non-recours à la voiture dans la question de l'information sur les mobilités. C'est que Marsdorf, il dit que ça peut jouer jusqu'à 50% des déplacements. Alors, plus on est prévenu, plus on est... plus on connaît les itinéraires, plus on est informé de ces itinéraires et plus on peut avoir des mobilités plus intelligentes. Alors, une idée forte lancée qui aujourd'hui émerge très fortement, c'est la marche. Alors, je fais partie du groupe avec Georges Amar à la RATP. Alors, eux sont intéressés aux questions des piétons dans les stations. Puis, de fil en aiguille, la marche, le droit de cité de la marche, la ville pédestre, la ville marchable est une question qui monte énormément. Genève, les Genevois, ils sont très en avance, ils ont déjà des plans piétons, ils ont des itinéraires, etc. Donc ça, c'est aussi une réponse à... Il n'y a pas que les transports en commun, il y a eu le vélo, mais le vélo, c'est 2 ou 3%, ça ne joue pas vraiment. Et je pense que la marche est vraiment là. Alors ça marche, comment ça va la marche? Ben, si la ville, elle est réenchantée, c'est-à-dire si elle est agréable. Donc là, on touche aussi aux politiques d'embellissement de la ville, hein, l'espace public, faire en sorte que la ville soit toujours plus belle et plus agréable. J'ai mis cette photo parce que demain, on commence les illuminations de Lyon. Et que cette idée de la ville, oui, réenchanter la ville belle, c'est une réponse globale, mais qui joue aussi dans notre raisonnement. La deuxième entrée, c'est notre rapport à la nature, il change, il est en train de changer complètement. Alors on n'ira pas jusqu'à ce que Schuiten imagine, hein, dans ses BD, où on est en train de monter une expo avec lui sur cette idée de ville végétale. Mais sans aller si loin, se rappeler les ceintures vertes, les parcs. Les ceintures vertes, c'est-à-dire cette nature qui existait, mais qui était mise à distance de la ville. Qui était mise à distance. Puis les parcs urbains, qui étaient des poumons, des compensations, des faubourgs qui étaient intensément peuplés. Donc cette nature, elle rentre dans la ville maintenant. C'est-à-dire c'est les corridors écologiques, c'est les trames vertes, etc. Et puis elle y rentre encore plus sur les espaces publics. Et là, les paysagistes déchaînent. Comment dire la ville, dire la nature fortement, jusqu'à même des formes très artificielles. Hein. À gauche, on voit les toitures vertes, les façades vertes. Ou à droite, c'est un potager à Lyon. On a fait travailler un artiste qui nous a fait un potager en pleine guillotière, en plein quartier dense. Alors, ça, c'est la végétalisation de la ville. Les îlots de chaleur, on voit que c'est aussi des réponses extrêmement précises au dérèglement climatique. L'art, bien sûr, qui se mêle de la partie. Et puis, un dernier élément, c'est cette envie aujourd'hui de réinvestir la ville et donc l'espace public. La rue, ça, c'est la rue qui est en question. On pourrait presque se dire que on pourrait récupérer la moitié de l'espace vierge. Depuis 10 ans, les transports en commun, les trams, les vélos, etc., ont réduit l'offre de voirie. Un pas de plus avec le changement climatique, là, je suis un peu concret, et pourquoi pas réduire encore plus et récupérer complètement cet espace vierge, enfin, où il y a la bagnole, pour retrouver la rue et pour transformer la ville. Donc l'espace public, je pense, c'est un lieu, enfin, c'est une vraie réponse au changement climatique, un enjeu absolument colossal dans la transformation des villes. Voilà, et puis je termine sur cette opération lyonnaise qui est intéressante pour nous, parce qu'elle est très emblématique, elle est très appréciée, elle résume un peu. Avant, il y avait 2000 places de stationnement, on a tout dégagé. On a essayé de réexprimer le fleuve, les mots doux. Voilà, donc c'est peut-être un peu ça qu'on a dans la tête. Voilà, donc pour résumer, la figure polycentrique ou la ville compacte, c'est clair que le changement climatique, enfin, le défi climatique peut pousser, enfin, est-ce que ça peut contredire ou renforcer ces figures je ne sais pas vraiment. Enfin, je pense qu'elles sont quand même très enracinées dans... Voilà, merci.
Merci François pour cet exposé qui mettait quelques doutes sur les écoquartiers, mais aussi qui montrait la complexité et finalement la variété des réponses possibles en termes de politique urbaine face à cet enjeu. Mais je vais passer tout de suite la parole peut-être à Vincent Renard pour qu'on ait le temps de débattre après.
Merci. Alors j'ai apporté un beau PowerPoint avec 45 slides. Je ne le passerai donc pas.
Mais attends, si tu veux le passer, passe-le. Hein.
Non, il y en a beaucoup trop et je préfère me concentrer sur les quelques points dont je souhaite qu'on discute.
Ouais, c'est vrai, tu vas pas être fâché.
Voilà. Vous voulez passer les 5 premières ?
Oui.
Alors, passe les 5 premières sur...
Si on sait faire fonctionner cette affaire-là.
Sur la ville idéale.
D'accord. Ouais, viens ici, Vincent, sois pas timide.
Je voulais dire juste en transition combien moi j'avais été impressionné et intéressé par l'exposé de François que je trouve absolument remarquable parce que par petites touches, il nous donne comme ça toute une série d'éléments à la fois de compréhension du système, mais aussi d'intervention sur le système. Quoi. Donc vraiment, c'est très... Voilà, je voulais te remercier. La qualité heuristique de ton intervention.